Vous écoutez
RMC.
Il est minuit 50 dans le studio de l'After, nuit de l'After jusqu'à ce soir, 4h du matin, avec dans 1h10 maintenant le coup d'envoi de Mexique-Angleterre, énorme affiche que l'on va vivre sur RMC. Vous saurez tout du match dans quelques instants, Nico Jama va prendre la suite. Bien sûr, donc rendez-vous d'ici 10 minutes pour parler de ce match. On est, nous, toujours sur la rencontre Brésil-Norvège avec la victoire donc de la Norvège de 2-1. Je voulais faire une évaluation, mais plutôt qu'une évaluation, on peut peut-être lister tous les joueurs brésiliens un peu en fin de course qui vont disparaître. Et là, on se rend compte que derrière, c'est quand même le grand vide. Bon, Gabriel, on peut estimer que lui, en défense centrale, il peut devenir un taulier, peut-être un capitaine, allez savoir, dans les années qui viennent. Enfin, Marquinhos, il est en fin de course. Casemiro, on a encore vu aujourd'hui qu'il est en fin de course. Neymar, j'en parle même pas. Donc en fait, qui sont les futurs tauliers? C'est ça qui est un peu flippant. C'est difficile d'avoir des noms en fait. Alors Vinicius, ok. Ben Vinicius, on voit bien que là, ce soir, il n'est pas capable de porter l'équipe.
Je ne vois pas en fait. J'ai pas de réponse à tes questions.
On n'a pas de.
J'ai pas de réponse. Je vois pas de.
On peut pas être optimiste là pour le court terme.
Je vois pas de grands joueurs brésiliens aujourd'hui. Je vois pas de gars au milieu en attaque. J'ai pas de réponse à ta question.
Bon, parce que après les autres, c'est Paqueta, Guimarães, tout ça.
Non, c'est pas des grands joueurs. Il n'y a pas de gars capable d'emmener le Brésil à des titres importants. Non, j'ai pas ça. Je vois pas ça.
Kevin, t'es d'accord?
Non, mais je suis d'accord. Après, attention, je suis pas le football brésilien pour savoir qui sont les nouveaux cracks là qui vont arriver dans les prochains mois. Ils arriveront toujours à former des joueurs parce que Daniel le disait quand même. Alors, j'ai jamais eu la chance d'aller au Brésil, mais tu vois quand même les images toujours. Et puis il y a les témoignages que sur la plage, ça joue toujours les femmes, les hommes.
C'est pas en faisant 4 jours que tu deviens champion du monde. Hein.
Non, mais attention, le toucher. Moi, j'ai joué avec beaucoup de Brésiliens pour le coup, voire contre.
Ah, mais ce toucher-là, on le voit plus dans la sélection, mon vieux.
Bah, ils ont quand même un toucher qui est au-dessus de la moyenne quand même. Après, le problème, c'est qu'ils rentrent de plus en plus tôt dans les clubs. Je crois qu'ils font de moins en moins de futsal peut-être aussi. Alors qu'au début, bah, ils faisaient Ronaldinho, Neymar. Ils ont tous commencé par le foot de rue, puis le futsal.
Et la base des joueurs qui étaient au mondial des clubs, là, contre le PSG l'année dernière, dirigé par un Philippe Louche, qui est maintenant à Monaco, c'est peut-être lui qu'il fallait mettre en sélectionneur et adopter le style.
Tu parles de Flamengo là.
Oui, Flamengo, voilà. Il fallait peut-être adopter ce style-là. Il y avait certainement des joueurs à ramasser dans cette équipe et construire autour de ça. Au moins, il y avait un style de jeu. Il y avait une idée. Là, il y avait aucun style. C'était un assemblage avec éventuellement peut-être miser sur Neymar sur Vinicius pour faire la diff. Bon, bref, la sauce Ancelotti a pas du tout pris. Je sais même pas s'il va rester. Il a signé un contrat d'accord, mais je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt en fait. Donc je sais pas. Pour le coup, je disais tout à l'heure, il y a pas d'entraîneur brésilien. C'est vrai que ça a jamais été la spécialité de ce pays.
Ancelotti a encore le temps de lever le doigt et de dire finalement, je veux bien être sélectionneur de l'Italie.
Ah ben non, parce que Mancini est revenu, donc c'est fini.
Non,
on a plus besoin de lui. Il a pas voulu venir quand il fallait.
Faut quand même pas complètement noircir le tableau. Ancelotti, depuis qu'il est là, il est pas arrivé depuis très longtemps. Il a quand même fait un travail correct. Ce soir, si.
Il a fait quoi, en fait?
Non mais on vient de dire qu'ils ont pas énormément de talent.
C'est assis à l'avant de l'avion, à l'avant du bus.
Ce soir, si c'est le Brésil qui gagne 2-1, c'est pas non plus scandale de l'année.
Sauf que là, ils perdent et qu'en fait,
Je reprends les propos très bien traduits par Kevin Diaz de Marquinhos, qui disait quand même que il va falloir du temps.
Le mec s'autocite maintenant.
Il va falloir du temps pour arriver à ce que cette sélection redevienne ce qu'elle. Je sais pas si elle redeviendra ce qu'elle fut, mais en tout cas qu'elle puisse laisser travailler les jeunes et laisser travailler cet entraîneur.
Kevin, quand tu t'appelles le Brésil, que tu as cette histoire, ce rapport au ballon, cette vision, ce jeu.
Il y a qu'un seul homme qui peut les sauver et moi je l'ai.
Tu ne peux pas.
Il faut aller prendre Pep Guardiola. Voilà.
Écoute.
Il voulait venir un moment. Prenez Pep Guardiola, dites-lui écoute, ta carrière tu l'as derrière toi.
Nous on veut que tu refasses de nous un pays de football.
Laissez-lui 6-7 ans, 8 peut-être
d'accord.
8 ans, allez, 2 okay. cycles
ans,
de Coupe du monde.
Aussi, bien
non,
sûr.
8
okay.
ans. Tu vas pouvoir t'occuper de tes enfants. Et viens sauver la patrie du foot.
Quand tu t'appelles le Brésil, que tu me dis que c'est pas catastrophique ou quoi, quand tu t'appelles le Brésil, que tu représentes ce qu'il représente dans l'histoire du jeu, que tu termine contre la Norvège avec 34% de possession avec 329 passes contre 680. Je veux même pas savoir le résultat.
Il va falloir avancer, hein. Il va falloir se relever.
Je ne veux pas savoir le résultat final. Je dis que ça, c'est les bases. C'est l'ADN du Brésil. L'ADN, c'est avoir le ballon, se faire des passes. Je suis même pas en train de te dire des bonnes passes, des passes verticales, des percussions. Je suis juste en train de te dire la base de ce qu'est l'ADN football de ce pays. Tu ne peux pas, face à la Norvège, terminer avec 35%
de
possession et un nombre de passes aussi faible par rapport à
la solution, c'est là.
Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible.
Je terminerai par cette stat qu'on donnait en début de rencontre. Donc, la Norvège reste le pays invaincu face au Brésil. 5 matchs, 0 défaite. Bravo les Norvégiens. Balogun, on apprend. Pam, tout à l'heure, début de soirée, que notre ami Balogun, qui avait pris un rouge en 16e de finale, et ben le rouge est effacé. Le rouge est effacé, donc Balogun peut jouer demain face à la Belgique. Et là, évidemment, hasard ou pas, vous allez me dire non. Donald Trump, sur son réseau social personnel, envoie un message en disant « Merci la FIFA d'avoir réparé cette injustice totale ». Et là, on a un journaliste américain, a priori bien informé, qui s'appelle Ben Jacobs, qui tweet, qui dit qu'en gros, la Maison-Blanche a appelé la FIFA. Bon, aurait, j'emploie le conditionnel évidemment, mais enfin, il est vrai que c'est quand même absolument dingue. C'est la première fois qu'un cas comme ça arrive depuis l'introduction du carton rouge à la Coupe du Monde. Ce n'est jamais arrivé. Jamais. Donc est-ce que là, Infantino s'est une nouvelle fois couché devant Donald Trump et la FIFA s'est ridiculisée? Quel est votre avis? Il nous reste 1 minute 50.
Donc Trump, ça veut dire, si on suit cette histoire, qui est complètement folle, qu'un conseiller, parce que lui, le foot, il comprend pas, il sait même pas qui est Balogun, qu'un conseiller sport ou je ne sais quoi est venu le voir... Donc pas immédiatement après le dernier match et tout, mais là, pour lui dire, Monsieur le Président, on a un problème, Balogun c'est notre attaquant. Qui ça? Balogun c'est notre attaquant, il va manquer dans le 8e de finale contre la Belgique. Vous pouvez faire quelque chose? Et donc Trump prend son téléphone, appelle Infantino et fait, trouve-moi un article du règlement pour faire sauter le carton rouge. J'avoue que c'est tellement énorme que je ne le comprends même pas. Qu'on ait avantagé le pays organisateur, malheureusement, ça n'excuse rien du tout, c'est juste complètement fou, hein, je le dis, c'est fou, mais qu'on arrange le pays organisateur, c'est plutôt une tradition dans l'histoire du football. Je trouve ça dingo. Alors certes, le carton rouge était très, très dur et probablement injustifié, mais qu'on assiste à ça, ça me laisse sans voix, mais comme je n'ai pas de preuves, que je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas comment le commenter en fait. Je peux juste dire que c'est fou. Voilà, c'est
tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé en interne et si ça c'est autre chose. Moi je pourrais pas me prononcer là-dessus. Par contre, une chose est certaine, c'est que quand j'ai vu le carton rouge de Balogun, j'ai dit que pour moi il devait pouvoir jouer le match d'après. Après, je sais pas quels sont les règlements, je sais pas si c'était
pas
possible, pas possible.
C'est pas le carton rouge le plus scandaleux de l'histoire en effet.
C'est un rouge qui pour moi aurait jamais dû être donné.
Le
gars a repris le match.
Ça va faire une jurisprudence, ça veut dire qu'à l'avenir.
Pour moi, il y a pas de problème.
Les Belges s'en foutraient ce soir d'ailleurs.
Ouais, mais il faudrait que ça arrive si ça crée un précédent, j'attends de voir quoi.
D'ailleurs, la France va demander que le carton jaune d'Olysée soit effacé. Si Emmanuel Macron pouvait appeler Infantino, ça pourrait aider.
Non, du coup, je sais pas.
Sinon, je voulais quand même finir là-dessus, vous dire quand même que la presse paraguayenne a dit excellent arbitrage hier soir. Nos joueurs ont fait le maximum. L'arbitre est excellent.
Ouais, c'est pas
très bon avis de Daniel sur ce qui s'est passé hier. Je suis complètement d'accord.
Voilà, je vous invite à le réécouter
en podcast. La majorité des points.